Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h20, merci d'être avec nous. Des grands débats qui ont commencé. Vous connaissez Elisabeth Lévy, Françoise de Goix, hors antenne. Et donc, ça continue ce matin avec François Guillaume, qui est ancien président de la FNSEA et ancien ministre de l'Agriculture, entre autres, avec ce livre ce matin, Les 10 commandements de l'homme politique, aux éditions du Cherche Midi.
Oui, particulièrement intéressant parce que vous avez eu un parcours, je dirais, hors du commun par rapport à beaucoup de Français, c'est-à-dire que syndicaliste pendant longtemps, dans le monde de l'agriculture, patron de la FNSEA dans les années 80, si je ne m'abuse, ensuite ministre de l'Agriculture, député européen, enfin voilà, un parcours complet, de la terre en passant par les bureaux des ministères.
Tout en étant resté à la terre quand même.
Tout en étant resté attaché à la terre, et on l'a bien vu dans dans le débat à l'instant, et ce dialogue avec Françoise de Goix et Elisabeth Lévy autour de l'éolien nucléaire, etc. Donc ça, c'est vrai, on en reparlera, ça reviendra dans la campagne. Là, c'est plus l'homme politique qui s'exprime. Vous revenez sur un petit peu votre parcours, et puis surtout la façon dont les Français se sont peu à peu éloignés aussi de la politique. Pourquoi, selon vous ?
Oui, naturellement, c'est une grande déception pour la plupart des Français de constater que leurs hommes politiques, d'une part, sont incapables de conduire la France vers le développement et en concurrence avec les autres pays partenaires, que la France a perdu depuis De Gaulle son rang au niveau européen, on ne parle que de l'Allemagne. Le tropisme allemand, moi, ça m'énerve.
Ouais. Vous êtes dans l'Est, vous venez de Lorraine.
En plus de ça,
c'est vrai,
comme le disait mon ami, qui n'était pas mon père Joseph, un religieux, il disait ceci qui était lorrain, il disait en 75 ans, les Allemands sont passés 6 fois dans la Lorraine, 6 fois en Lorraine, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Ouais. Et moi j'ai ajouté, heureusement, la dernière fois c'était la bonne. Mais ils sont revenus.
Oui, bon sens,
aujourd'hui,
bon sens,
on ne parle que de l'Allemagne.
Que de la puissance allemande.
Puissance allemande, dès qu'on. La comparaison se fait toujours avec l'Allemagne et toujours à notre détriment.
C'est normal, non? C'est normal, les chiffres.
Parlez bien dans le micro, François.
Pardon,
Elisabeth.
Pardon, ce qui m'embête, c'est pas tant qu'on parle de l'Allemagne que le fait qu'on a tendance à se laisser vassaliser par l'Allemagne.
Absolument.
On peut tout à fait en parler parce que c'est important, c'est le premier pays d'Europe, c'est notre voisin, la première économie européenne. Mais ce qui m'inquiète, c'est la fascination des élites françaises pour l'Allemagne. Alors que, vas-y Françoise.
Sur ce que disait à l'instant Elisabeth Lévy, on prend toujours l'Allemagne évidemment comme référence, et notamment en fait les élites, ou en tout cas certains réformateurs de l'économie.
Certains parlaient de fusion quand même.
Vous avez tout à fait raison, devient une fascination, et ça culpabilise nos producteurs, qu'ils soient agriculteurs. C'est effarant. L'Allemagne est passée devant la France pour les exportations agricoles dans le monde. C'est incroyable,
Et pourquoi alors ?
Eh bien, tout simplement parce que déjà, les règlements européens sont épouvantables.
Ils sont valables pour tout le monde.
On multiplie. Oui, mais est-ce qu'ils sont appliqués ? Non, parce que comme vous le savez, la France veut toujours être le bon élève de l'Europe. Mmh. Alors enfin, on en fait plus. J'ai des histoires à raconter terribles sur façon dont les perquisitions, ce sont des perquisitions qui sont faites sur le terrain par des hauts fonctionnaires français au nom de l'Europe en dépassant les exigences européennes. Mmh. Et pour ça, vous avez actuellement deux agriculteurs se suicident par jour, il y a 2 agriculteurs qui se suicident, c'est tout simplement à cause de tout cela.
Les normes dans les années 90, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et puis, pour surveiller les normes, vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre et qui repère. Si vous êtes agriculteur, que vous avez arraché 20 mètres de haie, par exemple, ou fait tomber un gros chêne au milieu d'une pâture qui est multiséculaire, eh bien, immédiatement, vous êtes repéré et vous avez
Alors,
une amende.
Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on a abusé. On a abusé pendant quelques années, François Guillaume aussi, puisque vous parlez des terres, des remembrements dans les années 60-70, là on est allé un petit peu trop loin quand même, quoi, aussi.
Oui et non. Non, mais de toute façon, vous avez raison. Il y a des choses qu'il faut protéger. Il y a un minimum qu'il faut protéger. Mais quand j'entends des gens qui disent « je suis con », même des hauts responsables politiques qui sont contre le remembrement, etc., qui viennent, eux, faire ce que j'ai fait moi avant-hier, quand j'étais gamin, que j'avais 5 ans, et qu'après l'école, on allait ce qu'on appelle démarrer les betteraves, c'est-à-dire... c'est qu'une seule quand elles sont...
C'est un bonheur de vous écouter. Hein. Non, je, sans ironie, j'adore vous écouter, alors... vous connaissez ça. Mais quand même, avouez, monsieur le ministre, on a complètement déconné avec l'agriculture productiviste, on a déconné avec les...
Les Allemands aussi, François.
Les Allemands et les pays et les Néerlandais, beaucoup plus.
Je voulais juste dire que par rapport à l'Allemagne, il faut arrêter de dire que c'est parce que ils nous sont passés devant, parce que on est surnormés, mais eux aussi respectent leurs normes. Il faut arrêter. Moi, j'ai visité des élevages en Allemagne. Objectivement, ils respectent autant
les
normes
l'Europe de l'Est,
que les Français. Mais bien, exactement.
Ils ont l'Europe de l'Est.
Et puis, ils ont la Russie. Et ils sont devenus des importateurs, des exportateurs extraordinaires. Voilà. Mais ça n'est pas parce qu'ils respectent moins que nous. Ça n'est pas vrai.
Avec quelle charge? Quelle charge la
c'est
production
ça. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Voilà, on arrive là-dessus, on arrive sur les charges de production, notamment dans l'agroalimentaire.
François Guillaume, avant de parler politique, parce que c'est assez intéressant sur les différentes valeurs que vous défendez aussi dans votre livre. Un mot sur les écologistes. Quel regard vous avez, vous, aujourd'hui, sur le mouvement écologiste en France?
Moi, vous savez, je suis un paysan dans l'âme. Ouais. Donc, j'aime la terre, j'aime les paysages.
Et la nature.
J'ai contribué comme j'ai pu au maintien des paysages tels qu'ils sont. Et j'ai plaisir tout le matin de regarder ces magnifiques paysages. Les écologistes, c'est quoi? Eux, ils ne savent rien. Ils veulent donner des leçons.
Savent, quand même. Non, mais certains savent, quoi. Vous avez connu Dumont dans les années 70-80. Ouais. Il avait quand même des discours sensés, quoi. Ouais. Hein?
Oui, non, mais il y a des excès partout. On ne va pas considérer que tous les Français sont des voleurs parce que il y a 2% de voleurs sur notre territoire. Ouais. Là, c'est pareil, il peut y avoir des excès, je ne conteste pas.
Mais est-ce qu'il y a une urgence climatique quand même? Est-ce que vous concédez à cette urgence climatique aujourd'hui?
Non.
Non,
non je êtes... considère... Je cons... Alors là, on part dans un sujet très compliqué. Je considère, effectivement, il y a un réchauffement climatique. Oui. Mais quelle est la cause? C'est là le problème. C'est là où il y a des divergences. Mmh. Et la cause, les causes ne sont pas celles qu'on dénonce aujourd'hui.
Pas que celle-ci, oui.
Pas que celle-ci. Ouais. Moi, j'ai lu récemment un livre de Girondeau.
Christian Girondeau, automobiles.
Ce livre, il est remarquable. Il est plein, à la fois plein de bon sens et aussi, il a un caractère scientifique incontestable.
Allez, on continue avec vous, François Guillaume. Vous êtes avec nous encore quelques minutes. Oui. Et on va revenir sur les 10 commandements. Tout de même, on ne les a pas abordés, de l'homme politique. Là, parce que c'est particulièrement intéressant alors qu'on rentre en campagne électorale. Vous avez un regard, vous qui avez bien connu aussi un certain Jacques Chirac. Évidemment. Allez, on va en parler dans un instant.
Restez avec nous. Il est
merci, Françoise de Goë, Elisabeth Lévy. Et vous, 0826-300-300, vous avez envie d'appeler, de réagir sur l'écologie, sur le pouvoir d'achat.
Sur la
vous avez encore
en
quelques
général.
Minutes. Et poser une question à François Guillaume. Allez-y.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h32, vous pouvez continuer de participer au débat, toujours avec François Guillaume, ancien président de la FNSEA, ancien ministre de l'Agriculture, député européen, député de la Meurthe-et-Moselle, et ce livre, Les 10 commandements de l'homme politique aux éditions du Cherche Midi.
Oui, vous dites notamment, François Guillaume, le chassé-croisé droite-gauche est mortifère pour la France.
Oui,
c'est-à-dire
Absolument, parce que, en fait, quand un camp a perdu, il n'a de cesse, naturellement, de chercher à retrouver le pouvoir. Et donc, pour cela, il est parfaitement clair qu'on ne s'attaque pas au vrai problème. On s'attaque qu'au...
Oui, mais alors pouvoir, quand lui, il est en place, normalement, il a 5 ans, avant c'était 7 ans, pour engager des choses. Vous avez été ministre, vous étiez proche de Jacques Chirac. Est-ce que Jacques Chirac, quand il a été élu, que ce soit lors de son premier mandat ou le second, il a fait des choses?
Oui.
Ou il vous a déçu?
Enfin, moi je trouve qu'il a fait des choses à la première cohabitation, quand il était premier ministre.
Ah oui.
Mais dès qu'il est devenu président, alors là, moi je ne le reconnaissais plus.
Ouais. Pourquoi alors? Parce que même... peur d'engager des réformes, de brusquer les Français,
c'est ça.
C'est ça
et puis en fait, comme tous les hommes politiques malheureusement aujourd'hui, c'est veiller à ce que les décisions prises lui permettent de gagner encore quelques électeurs.
Ouais.
D'ailleurs, Emmanuel Macron fait ça alors presque mieux que tout le monde parce que il y en a pour tout le monde avec lui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le lendemain, c'est tout à fait,
oui, c'est-à-dire
tout à fait différent.
Un jour pour une
temps,
cuillère pour la gauche, une autre cuillère pour la droite.
En même temps,
quoi.
Ça fait comme ça, tout le monde est content.
Oui.
Et tout le monde vote. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est le grand péché des hommes politiques de l'après-guerre, après Pompidou, De Gaulle naturellement, et Pompidou, c'est que leur principale préoccupation, c'était leur réélection. Mmh. Et pour cela... Eh bien, on va vers les électeurs, les différentes catégories d'électeurs, pour leur donner des satisfactions.
Mais vous voulez dire que, vous voulez dire, François Guillaume, c'est intéressant, que si on fait de la politique, on ne doit pas forcément plaire aux électeurs. Il faut avoir le courage de prendre des décisions, peu importe ce qu'en pensent les Français, alors.
Oui,
on ne peut pas non plus gouverner sans les Français, quoi. Prendre des mesures qui vont être...
Mais les Français, il faut leur présenter les problèmes tels qu'ils sont. Et on ne leur présente pas les problèmes tels qu'ils sont. On leur présente les aspects... un peu...
Lycée, vous voulez dire ?
Oui.
Pour la paix sociale ?
Oui, c'est ça. Donc, à partir de là, si vous voulez, ou alors ils arrivent comme Macron, Emmanuel Macron, personne ne le connaissait, les Français, c'est manifeste, tout le monde a compris ça, sont las de la façon dont la France est gérée, avec les conséquences sur leurs revenus, sur leur vie sociale, matérielle, etc. Et qu'on cherche l'homme providentiel. Bon, les hommes providentiels, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu une femme, c'est Jeanne d'Arc, et il y a eu un homme, c'est De Gaulle.
Oui. C'est parce qu'on était dans des situations de crise et
exactement,
de guerre.
Exactement.
Alors, s'il faut attendre, en fait, nous sommes dans une situation de crise pour vous, justement.
Oui, tout à fait.
Oui.
Tout à fait, parce que, la France perd son autorité aussi en géopolitique. Regardez l'affaire des sous-marins.
Oui, et est-ce que vous voyez, alors, quelqu'un, un homme ou une femme, providentielle ?
Bah, écoutez, pour l'instant, j'en vois pas.
Non.
Pour l'instant, j'en vois pas.
Dans votre famille traditionnelle qui est à droite, vous étiez plutôt à droite au RPR de l'époque, vous n'en voyez pas là, chez les Républicains qui ont...
Non,
ça veut dire qu'il n'y a plus de personnalité charismatique aujourd'hui dans la politique.
Il faudrait en trouver une.
Oui,
pour l'instant, il n'y en a pas.
D'accord.
Pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui monte, tout le monde le sait.
Éric Zemmour.
Éric Zemmour, moi, je lui trouve de belles qualités. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il a toujours le même discours, il ne change pas de discours, il a des convictions, ses convictions, il les défend. En plus de ça, effectivement, il a une culture, une qualité de débatteur, une mémoire extraordinaire.
C'est bien de débattre, après, comme vous l'avez dit, il faut être capable d'agir, quoi. Il faut être à la manœuvre. Ça, c'est autre chose. Vous avez connu, vous, les discours à la tribune, et puis ensuite, la réalité du terrain, quoi, non ?
Et l'argent verbal, je connais aussi.
Et voilà.
Et vous parliez de l'ancrage sur le terrain, justement. Est-ce qu'il ne faut pas un minimum d'ancrage pour être présidentiable ?
Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, nous n'avons, Emmanuel Macron en est l'exemple, nous n'avons des sachants. Et moi, je ne suis pas un sachant. Mon école, c'est l'école de la vie. Parce que je n'ai pas fait d'études supérieures, voilà. Et pourquoi j'en suis là ? Parce que j'ai aussi des convictions, que je les défends, et que de toute façon, ça me déplaît pas, et je ne crains pas la contestation.
Ouais.
Je crois que le débat, c'est la démocratie.
Ouais.
Et aujourd'hui, il n'y a plus de vrai débat.
Oui, vous dites donc, à propos des journalistes, qu'ils ont la bride sur le coup.
Oui.
C'est ça. Qu'est-ce que vous entendez par là ? La presse n'est pas libre ou qu'est-ce qui se passe ?
Oui, écoutez, il y a quand même une partie de la presse, une partie des médias qui sont à la solde du pouvoir. C'est manifeste.
Oui.
Manifeste.
Bon. Toujours, mais il y a des médias qui contestent, il y a des médias qui sont plus neutres, il y a non.
Oui, mais pas beaucoup. Quand il y en a un qui même s'il n'est pas encore candidat, on essaie de le
vaincre. Là, vous pensez, vous parlez encore d'Éric Zemmour.
Oui, ben bien sûr.
Oui, mais enfin, il a écrit en même temps un livre où il ne cache pas non plus qu'il a envie d'être candidat, quoi. Donc,
oui, peut-être. Bon. Oui, même probablement. Oui, probablement.
Oui. Vous dites aussi, François Guillaume, le sentiment d'appartenance nationale est bafoué aujourd'hui.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que la France n'est plus respectée, qu'on n'aime plus les valeurs du pays ?
Ben, la France n'est plus respectée d'ailleurs de l'extérieur. Je disais deux mots tout à l'heure sur l'affaire des sous-marins. Mmh. L'affaire des sous-marins, c'est grave sur le plan, naturellement, du travail.
Et du budget.
Voilà. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que la France est sortie du jeu dans le Pacifique. Il y a les Chinois, les Anglais, naturellement, les Américains, les Anglais, les Australiens, les Japonais, Taïwan, la Corée du Sud, et nous. Alors, je pense que d'ici peu de temps, le président va voir Biden et
la France perd de son rang, c'est ce que vous dites, quoi.
Progressivement.
Bon, merci beaucoup François Guillaume d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Les 10 commandements de l'homme politique, c'est aux éditions du Cherche Midi et c'est intéressant, c'est votre regard évidemment avec votre expérience et sur ce qu'il faudrait éventuellement faire, en tout cas pour se lancer dans la bataille politique et pour les grands défis qui attendent la France. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La France à vos côtés dans un instant, Cécile.
Oui, on va parler d'un sujet important, on va parler du handicap et 12 millions de personnes aujourd'hui sont touchées par le handicap en France, et on va parler de cette intégration par le sport avec une pensée plutôt positive et des actions positives avec Tony Moggio qui est devenu tétraplégique à la suite d'une blessure rugby et qui réalise pas mal de défis, et on va en revenir ce que ont donné finalement les Jeux Paralympiques et ce que ça a généré en tout cas sur le terrain. On en parlera avec Serge Robert qui est secrétaire général du comité régional handisport en Occitanie, et vous voulez commenter ou en tout cas apporter votre et nourrir le débat et apporter votre avis au 0826 300 300. Vous attend dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.